tu as écrit là sur l'or, le port glorieux de l'or. Pourquoi ?
Il y a deux aspects. D'une part, c'est un, comme tu le vois tout de suite, c'est un emprunt justement au vocabulaire chrétien. Le corps glorieux, c'est dans la mythologie chrétienne la réconciliation à la fin des temps de l'âme et du corps ressuscité, mais du corps devenu angélique, c'est-à-dire pouvant passer à travers les murs, n'ayant plus de matière, mais quand même du corps. Or, ce corps qui peut passer à travers les murs, et qui est quand même du corps, c'est pour moi le langage. Disons, c'est une chose tout à fait matérielle et qui néanmoins peut, comme ça, traverser les airs, se trouver au Japon dans l'instant même. Donc, j'ai pris ce mot au vocabulaire chrétien parce que j'ai remarqué que curieusement, et peut-être pas curieusement du tout, cette tradition qu'elle renie avec violence, elle en est très très imbibée malgré tout. Par exemple, dans ses lettres à bataille, les premières, elle dit, commentant quelques aspects de leur relation, de leur friction, de leur petite querelle, elle a dit, mais ça, ce n'est pas un péché mortel. Bon, c'est-à-dire qu'elle a fait une action qui avait peut-être irrité bataille, je ne me souviens plus très bien, et elle dit, ça, ce n'est pas un péché mortel. Ou bien encore, elle reprend d'autres termes issus de la conduite à tenir dans la vie, qui est en fait tout à fait traduite de la tradition chrétienne. Alors, donc je crois que son sort a été lié ensuite à cette même tradition, même dans sa transgression, et ensuite chez ses commentateurs, chez ses amis, parce que l'or est morte, bon, mais elle est devenue vivante dans la bouche, par le langage de ses amis, d'abord bien sûr de Léris et de Bataille, mais ensuite de Jérôme Peignot, qui a écrit les textes que tu connais sur Ma mère diagonale, et dans ses romans, enfin, qui est devenue l'héroïne de ses romans. Alors, ce corps glorieux, il me paraît à la fois enfin, assez tragique, ce qui concerne le personnage, enfin, l'individu, l'or, et sublime dans ses écrits, mais me paraît donc fondé sur une sorte de contradiction entre cette femme qui, pour vivre, doit mourir. Enfin, disons que c'est à la perpétuation, enfin, la survie de l'or dans le langage, qui est un corps, j'ai pensé en proposant ce titre. avait confié à Jérôme et à moi, nous avait fait une confidence. Après, de la littérature considérée comme une tauromachie, après l'âge d'homme, où d'après le titre, du moins, Michel Herris comparait l'acte littéraire à l'acte tauromachique. Mais on lui avait dit, mais non, ça n'en va pas, parce que tu ne mets pas du tout ta vie en jeu quand tu écris. Et cela avait tellement frappé Léris, c'est-à-dire qu'elle avait tellement le pouvoir de l'impressionner, que pendant 5 ans au moins, je crois, il n'a plus pu écrire, en tout cas de la même façon, et pendant 5 ans, il a effacé d'une certaine manière le nom de l'or dans ce qu'il écrivait. Il nous l'a dit lui-même. C'est-à-dire, dans le premier livre de la règle du jeu, l'or est vraiment complètement refoulé et masqué. Elle ne réapparaît que bien plus tard, quand il a pu assumer et, disons, comment dire en anglais, recover, c'est-à-dire se remettre de cette phrase absolument condamnatrice de l'or. En tout cas, je crois que si quelqu'un peut avoir une influence à ce point sur une écriture, c'est qu'elle compte beaucoup dans le fantasme. Il n'y a pas d'autre explication.
Disons qu'il y a un thème qui a un peu traversé toutes ces émissions, sur lequel Jérôme est intervenu mais chaque fois de façon très brève, c'est celui du risque, c'est celui de la tauromachie.
Ben, ce que l'on peut dire et ce que l'on peut faire, je crois que c'est ce qu'il y a de plus judicieux, c'est de lire cette lettre que Laure a envoyée à Léris, dans laquelle elle lui demande de réfléchir sur la signification de la tauromachie.
Chers amis, n'oubliez pas votre promesse de compte-rendu de corrida. Croyez-vous que cela puisse souffrir le même retard que les comptes-rendus bibliographiques? Le taureau a-t-il craché tout le sang de ses poumons, comme à ma première corrida? L'odeur de sang montait jusqu'au gradin le plus élevé, jusqu'aux places les plus éloignées de l'arène où j'étais assise entre un marchand de bestiaux qui, comme un cerf, et une jeune fille noyée de pleurs, et que sa sœur a dû amener, une espagnole cependant. Cela a été très long. À ne pas comprendre comment le taureau était encore debout, comme s'il vomissait tout simplement. Il est resté ainsi jusqu'à osciller sur ses 4 pattes, dans un balancement très doux, puis les pattes de devant ont fléchi, il est tombé à genoux dans la mare, il a fait sa prière, et enfin il est tombé sur le côté. Cette blessure est, paraît-il, très maladroite, très immonde, et le public l'a prouvé ou a cru le prouver en sifflant d'une seule bouche. À ce moment, le temps a tourné, un ciel de plomb a recouvert cette fosse à serpents, et je suis sortie de justesse par le dernier rayon de soleil avant l'orage. Oui, vraiment, ce jour-là, il mieux valait mettre le feu aux arènes. Peut-être était-ce très magnifique l'autre dimanche.
Mais Léris a poursuivi cette réflexion, d'abord dans Tauromachie, qu'il a dédié à l'or. Et voilà ce qu'il écrit dans Tauromachie.
Donc, le matador se tient debout, les pieds impeccablement joints, rivé par sa paire de déchoirs, au-dessus du public en même temps que par les bandelettes qui enserrent sa cheville, masqué par le bas rose vomi et le clinquant des escarpins. Roideur d'homme seul, roideur d'épée. La muletta, lentement déployée, couvre de sa paupière la tige trop clairement évidente, jet jailli chimérique d'une prunelle d'acier. Le matador, un Damoclès qui a pris son destin par les cornes, son épée à pleine main. Le torero face au taureau, face à un miroir méchant. La cape évoque, appelle et congédie, détourne la bête, comme l'offrande sacrificielle évoque et congédie le dieu. Drap gonflé, déchaînement méthodique des puissances. Il importe que l'homme soit suffisamment maître de soi pour que l'orage reste suspendu. Taureau et torero engrenés comme un jeu de bielle, luttant à qui fera tomber l'autre dans la fosse invisible qui est le pivot de l'arène. Le torero droit comme un cri. Tout près de lui, le souffle. Et tout autour, la rumeur. Le taureau, cape aux cornes, secoue l'étoffe énorme, nuage coiffé d'un parapluie rouge retourné. Passe enchaînée comme les divers moments d'une fugue. Cape dont les replis, déplis et tournoiements miment les volutes de l'hôtel majeur à Saint-Jacques-de-Compostelle. Vaste manège de chevaux de bois. Ainsi la reine. Cap concave qui s'enfle en orgue de cathédrale, voltige par-dessus les chines et les cornes friables, s'humilie jusqu'à glaner au sol de brunes éclaboussures. Mer des souffles brûlants. Enveloppé du voile de la déesse, le torero foule l'air du danger. Habillé de danger, voile qui le cerne et le protège. La croix, image du circuit mortel, d'une ondulation oblique de drapeau, la gauche dévie le choc, en retour, de la mort portée par la droite. L'épée s'engouffre au Saint-Plume du garrot, le leurre part une fois de plus, mais la menace ne quitte pas pour si peu le front de Damoclès. À travers pique, mimique, sourire complice et lancer de pensée, ce qui toujours paraît, c'est la mise à mort. Tout se résume peut-être en un bout d'étoffe rouge, cloué sur un mur blanchi à la chaux, haillon de sang, brûlant contre la prison des eaux.
Enfin, dans la préface à l'âge d'homme, Léris écrit ceci. D'une manière générale, on peut dire que la règle tauromachique poursuit un but essentiel. Outre qu'elle oblige l'homme à se mettre sérieusement en danger, tout en l'armant d'une indispensable technique, à ne pas se défaire n'importe comment de son adversaire, elle empêche que le combat soit une simple boucherie. Aussi pointilleuse qu'un rituel, elle présente un aspect technique, mettre la bête en état de recevoir le coup d'estoc sans l'avoir fatigué, toutefois, plus qu'il n'était nécessaire. Mais elle présente aussi un aspect esthétique. C'est dans la mesure où l'homme se profilera, comme il le faut lorsqu'il donnera son coup d'épée, que dans son attitude, il aura cette arrogance. C'est dans la mesure également où ses pieds resteront immobiles au cours d'une série de passes bien serrées et bien liées, la cape se mouvant avec lenteur qu'il formera avec la bête, ce composé prestigieux où l'homme, étoffe et lourde masse cornue, paraissent unis les uns aux autres par tout un jeu d'influences réciproques, tout concourt en un mot à en prendre l'affrontement du taureau et du torero d'un caractère sculptural. Usé de matériaux dont je n'étais pas maître, et qu'il me fallait bien prendre tel que je les trouvais, puisque ma vie était ce qu'elle était, et qu'il n'était pas possible de changer d'une virgule mon passé, donnée première, représentant pour moi un lot aussi peu récusable que pour le torero la bête, qui débouche du toril. Dire tout et le dire en faisant fi de toute emphase, sans rien laisser au bon plaisir et comme obéissant à une nécessité, telles étaient, et la loi que je m'étais fixée, l'étiquette avec laquelle je ne pouvais pas transiger. Étant entendu cependant que je distingue en littérature une sorte de genre pour moi majeur, qui comprendrait les œuvres où la corne est présente sous une forme ou sous une autre, risque direct, assumé par l'auteur, soit d'une confession, soit d'un écrit au contenu subversif, façon dont la condition humaine est regardée en face ou prise par les cornes, conception de la vie engageant son tenant vis-à-vis des autres hommes, attitude devant les choses telles que l'humour ou la folie, parti pris de se faire le résonateur des grands thèmes du tragique humain, je puis indiquer en tout cas. Mais sans doute est-ce là enfoncer une porte ouverte, que c'est dans la mesure exacte où l'on ne peut y déceler d'autres règles de composition que celle-là même qui a servi de fil d'Ariane à son auteur au cours de l'explication abrupte qu'il opérait, par approche successive ou à brûle pour point, avec lui-même, qu'une œuvre de ce genre peut être tenue pour littéralement authentique.
Le drame, c'est que dans la littérature écrite par les femmes aujourd'hui, là où la corne est présente, c'est le sexe qui est présent.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que maintenant l'invention, la subversion passe également par un codage très précis, qui est le codage sexuel, parfois très stéréotypé, dans un autre sens, je veux dire, dans le sens inverse, mais finalement très, très parallèle et très semblable au refoulement précédent.
Ce que je veux dire, c'est que Léris, quand Léris parle d'une œuvre telle qui peut être tenue pour littérairement authentique, il parle donc de la présence de cette corne et de ce risque. Bon, je trouve déplorable qu'on ne considère aujourd'hui comme authentique dans la littérature produite par les femmes que les lieux où elles parlent de leur corps et d'un corps extrêmement réduit, qui est uniquement celui de sa surface et de ses replis physiologiques. Ce qui me touche personnellement dans les écrits de Laure, c'est que c'est pas sublime. Comme disait Mitsou tout à l'heure, je ne pense pas que ce soit un grand écrivain. Elle se situe ailleurs. Elle, bien sûr, elle aurait pu être un grand écrivain. Il se trouve que les circonstances de sa vie, et peut-être les interférences génial et considérable des hommes qui l'entouraient ont limité son champ d'expression. Mais elle reste considérable parce que dans ce qu'elle a tenté, dans sa vie et dans ses écrits, il y a cette présence de la corne de Léris. Ça ne fait pas plus d'elle un grand écrivain qu'une autre femme, ni une plus grande femme qu'une autre. Mais la conjointure de ces deux risques fait pour moi sa beauté, suscite l'affection que je lui porte.
C'était Fragments de l'or, une émission de Jérôme Peignot et Michel Cohen, avec aujourd'hui la participation de Florence Delay et de Mitsu Rona. Extrait lu par Florence Delay. Assistante de réalisation, Jacqueline Clancier. Chef opérateur du son, Nicole Valmar.